une des grandes clés du succès, c'est la persévérance. Après, il faut faire ce que j'appelle de la persévérance intelligente, dans le sens où, tu vois, si tu veux faire un trou dans un mur, et que ta méthode, c'est de te taper la tête contre le mur pour faire un trou, bon, peut-être qu'au bout d'un moment, si tu vois que ça marche pas et que t'as mal au crâne, il faut peut-être changer la méthode, tu vois. Donc, y a la persévérance bête et méchante, on va dire, et y a la persévérance intelligente. Donc, il faut essayer le plus possible d'être dans la persévérance intelligente. Et la grande question, justement, c'était, bah, du coup, ok, mais comment on sait si notre projet va fonctionner ou pas? Quand est-ce qu'on sait que si on doit arrêter ou si il faut continuer? Et la réponse à ça, c'est que bah, on ne sait pas, en fait. Sinon, ça serait trop simple et tout le monde serait millionnaire, n'est-ce pas? Je pense que c'est un mix de persévérance bête et méchante, dans le sens où, ok, je veux vraiment y arriver, je ne vais pas abandonner, mais aussi de méta-persévérance. C'est-à-dire qu'on peut changer la méthodologie, mais sans changer l'objectif final.
Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Pour enregistrer cet épisode, je me suis rendu à Dubaï afin de vous faire découvrir Olivier Roland, un entrepreneur inspirant, spécialiste de l'acquisition de clients à travers de la création de contenu, notamment le blogging. Une thématique qui intéressera tous les photographes qui écoutent ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie d'Olivier et vous souhaite une bonne écoute.
Salut Olivier, est-ce que tu peux te présenter?
Ouais, salut, bah écoute, j'aime bien dire que je suis un prof de liberté. Donc j'aide les gens à être plus libres, à la fois matériellement, et ça passe davantage par l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat fait de la bonne manière, parce que quand tu crées une entreprise de la mauvaise manière, tu peux facilement te retrouver esclave de ta propre boîte. Et je parle d'expérience parce que j'ai créé ma première entreprise à 19 ans. Et je suis retrouvé à travailler 70 heures par semaine dedans, à prendre une semaine de vacances par an. Quand c'est pas fait de la bonne manière, c'est... ça peut être compliqué. Donc j'enseigne aux gens comment créer une boîte de la bonne manière pour qu'elle soit au service de leur entreprise. Et puis la liberté aussi, qui passe par l'état d'esprit, parce que tu peux être libre matériellement, mais être prisonnier d'addiction, prisonnier de mauvaises habitudes. J'essaie d'aider les gens à s'améliorer, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et au-delà de ça, donc, je suis auteur, conférencier, entrepreneur depuis déjà longtemps, puisque j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première entreprise.
Et aujourd'hui, tu as quel âge?
J'ai 42 ans.
Ok. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je voulais que tu participes à ce podcast, et merci d'avoir accepté cette invitation. La première, bon, c'est déjà pour se revoir, parce qu'on est ici à Dubaï, là où tu vis une partie de l'année, et on pourra en parler. Et c'est l'occasion de discuter avec toi et notamment de faire profiter aux gens qui suivent ce podcast de conversations qui sont toujours intéressantes sur, tu l'as dit, la liberté et l'entrepreneuriat. Les gens qui nous écoutent sont majoritairement des photographes qui ont choisi ce métier pour cette envie de liberté géographique, mais aussi, je ne sais pas si on peut parler de liberté un peu plus intellectuelle, tu sais, le fait de pouvoir rencontrer des gens, d'aller dans des endroits impressionnants, enfin, où tu n'es pas censé aller, de vivre des expériences qu'on ne vit pas forcément dans d'autres métiers. Et un des trucs qui pêche souvent, je me rends compte en formation ou en coaching, c'est le côté entrepreneur du métier, qui n'est pas si bien vu au final, parce que beaucoup de photographes sont des auteurs, sont des artistes, sont des photojournalistes, et le côté marketing les embête, le côté créer une boîte les embête. Et toi, c'est ce que tu apprends à débloquer aussi ce mindset d'entrepreneur rebelle, libre. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous partager les premiers conseils que tu donnes à quelqu'un qui est un peu bloqué à ce niveau-là, que ce soit pour la photo, mais aussi dans la formation ou dans n'importe quelle industrie au final?
Quelqu'un qui est bloqué par rapport au fait de devenir entrepreneur?
Ouais, ou de ce manque de vision sur ce qui peut être en tant qu'entrepreneur, tu vois. Sortir peut-être du salariat pour ensuite se lancer dans un milieu, dans un métier artistique, créatif, ça bloque beaucoup de gens au final, parce que c'est pas du tout la même façon de penser. Toi, est-ce que tu vois ce pattern en quelque sorte chez
toi? Oui, c'est très courant. Il y a énormément de gens qui veulent devenir entrepreneurs. La dernière fois que j'ai vu les chiffres en France, il me semble qu'il y a à peu près un tiers de la population qui veut devenir entrepreneur, et qu'il y a quelque chose comme 10% qui le deviennent vraiment. Donc Il y a beaucoup plus qui souhaitent le devenir que de gens qui le deviennent. Ça fait rêver pas mal de personnes, mais il y a plein d'obstacles réels ou imaginaires qui se mettent en travers de leur rêve. Et donc, un conseil pour quelqu'un qui serait tenté par l'aventure entrepreneuriale et qui hésite et qui se demande si ça vaut le coup, c'est de comprendre qu'on peut commencer à mettre en place des expériences dans sa vie sans que ça la bouleverse. Par exemple, j'ai créé mon entreprise à 19 ans. C'est quelque chose d'assez inhabituel et qui pourrait sembler extrêmement risqué. Mais je n'ai pas agi de manière kamikaze dans cette situation. Ce qui m'a donné la confiance nécessaire pour arrêter l'école aussi jeune et créer cette boîte, c'est que j'avais fait une expérience sur le terrain pour valider si mon idée était bonne ou pas, sans que ça chamboule ma vie. Qu'est-ce que c'était cette idée? En fait, à l'époque, j'étais un geek, donc j'étais très timide. Et comme beaucoup de gens timides, je me suis un peu réfugié dans l'informatique, parce que l'informatique a deux grandes qualités. C'est que la première, c'est un monde absolument fascinant. Tu peux passer ta vie dedans à apprendre des choses. Et deuxièmement, ça ne demande pas beaucoup d'interaction avec des êtres humains. Donc pour les gens timides, introvertis, c'est parfait. Et avec un ami, donc j'avais quand même quelques amis, j'étais pas complètement asocial. Avec un ami, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui nous demandaient de les aider sur des problèmes informatiques qui leur paraissaient insurmontables et que nous, on résolvait, mais vraiment d'un claquement de doigts. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas gagner de l'argent avec ça? Donc, c'est là qu'est venue l'idée entrepreneuriale. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont des idées comme ça. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Mais beaucoup de gens s'arrêtent là parce qu'ils disent, oula, il va falloir que je crée une boîte, que je fasse un projet, un business plan, que je prenne des financements et tout ça. Et c'est cette tâche qui semble insurmontable de devoir se lancer comme ça dans quelque chose. C'est un peu comme si on est un débutant d'alpinisme et qu'on commence à monter les brises tout de suite. Ça fait peur. Vas-y, mon Dieu, il y a tellement de trucs à préparer. Comment je vais faire? Mais en fait, c'est possible de se lancer vite, bien et sans se prendre la tête. C'est ce qu'on a fait. On s'est dit, plutôt que de partir dans cette voie-là en disant « Ok, on va faire un business plan et tout ça », on s'est dit « Ok, comment on peut tester notre idée pour voir si c'est vraiment une bonne idée ou si on est comme des Don Quichotte avec les moulins à vent avec des géants ?» Et bon, on a fait tout simplement une petite annonce dans un journal d'annonce local. Donc on a payé quelque chose comme 10 euros, c'était encore en francs à l'époque, hein, c'était en 99. Et on a eu 1000 euros de chiffre d'affaires, à peu près un peu moins, 800 euros de chiffre d'affaires en un mois, pour 10 euros d'investissement, où on a proposé aux gens de venir les dépanner chez eux. Et là, tu vois, alors, c'est pas énorme 800 euros, mais quand tu as 18 ans et que tu as peut-être, je sais pas, 10 euros d'argent de poche par semaine, tu fais waouh. Ouais. Et surtout, cette expérience simple, efficace, qui n'a pas demandé de moyens incroyables, Yann m'a montré que, un, oui, j'avais les compétences pour aider les gens, deux, malgré le manque de moyens matériels, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de voiture, on devait y aller en bus, ces gens, c'est pas toujours facile, on pouvait aller les voir et que malgré le fait qu'on avait l'air d'adolescents très très jeunes, ils étaient contents de notre service et que derrière ils nous payaient, on a reçu l'argent dans nos mains et que c'était rentable. C'est ça qui m'a donné la confiance nécessaire pour faire le bon saut et arrêter l'école si jeune et l'ensemble dans l'entreprise. Alors il faut savoir d'ailleurs que mon ami, lui, a décidé de continuer ses études et de passer au moins son bac avant de créer sa boîte. Donc moi, j'ai créé ma boîte tout seul en fait. Mais c'est vraiment une première piste, c'est que de vous poser la question de « Ok, là aujourd'hui, faire le grand saut, ça me fait peur. Mais quel petit saut je peux faire qui me permette déjà d'avoir une vraie expérience de terrain qui va soit me conforter dans ma décision de faire le grand saut, soit me dire bah « Non, finalement, c'était pas intéressant, je vais essayer de trouver un autre grand saut à tester. » Et l'idée, c'est de mettre en place comme ça un test simple, efficace, qui ne va pas bouleverser votre vie, qui va vous donner des vrais éléments qui viennent du terrain. D'ailleurs, à l'époque, on avait fait ça au noir, parce que la micro-entreprise n'existait pas, hein, tout simplement. Aujourd'hui, on pourrait créer une micro-entreprise. Et puis voilà, on a la chance aujourd'hui d'avoir une structure juridique extrêmement simple et flexible en France. Il y a des équivalents en Belgique, je pense, plus de situations, mais je pense aussi. Donc voilà. Et d'ailleurs, des années après, j'ai lu le livre « Lean Startup » de Emmick Rice. Je me suis rendu compte que, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, j'avais fait une Lean Startup sans le savoir avec ça. Parce que le concept de Lean Startup, c'est. Alors, ça s'applique normalement aux startups, et finalement, c'est un concept qui se décline pour toutes les différentes entreprises. C'est que plutôt que, voilà, on investit des millions, des dizaines de millions, on passe des mois, des années à créer le produit parfait, et souvent, sans compte, une fois qu'il est sorti, que tout le monde s'en fout de dedans, à la place de ça, on fait ce qu'ils appellent un MVP, donc Minimum Viable Product, le produit minimum viable, en bon français. Qui est vraiment la version la plus basique du produit, mais la version la plus basique du produit qui amène quand même l'essentiel de ce que les gens attendent. et on le met sur le marché le plus vite possible pour voir si ça intéresse ou pas. Et au final, dans cette démarche que j'ai eue à l'époque, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas attendu d'avoir le logo, le site web, les bureaux, la voiture avec les bonnes couleurs de peinture. Non, on y allait en bus, on a fait une petite annonce dans un journal d'annonce et puis on a testé. Et c'est ça, cette idée, c'est d'essayer de me dire, OK, quel est le produit minimum viable que je peux faire par rapport au service que j'attends. Donc, pour prendre l'exemple des photographes, je ne sais pas quel type d'entreprise pourrait vouloir lancer, mais j'imagine, pour prendre un exemple vraiment classique, s'ils veulent se lancer dans la prestation de photos, je sais pas, pour le mariage, des trucs comme ça, c'est pas forcément le truc, je pense, qui fait le plus rêver les photographes, mais au moins, voilà, de commencer par l'entourage proche, de tester un petit peu pour voir si ça leur plaît, de voir si les tarifs qu'ils proposent sont acceptés, pour avoir un peu de données qui viennent réellement du terrain.
Bah, carrément. Bah, c'est intéressant parce que quand on s'est rencontrés il y a quelques années, je démarrais mon activité de formateur et de photographe aussi en parallèle pour les grands reportages. Et j'avais du mal à vendre mes sujets à la presse magazine et j'avais lancé un blog. C'est comme ça que j'étais tombé aussi sur toi et d'autres infopreneurs. Et le fait de juste faire un blog et de poster ces photos et se dire quitte à pas les vendre, plutôt qu'elles meurent sur un disque dur poussiéreux, autant les publier, les montrer. Et c'est ça qui ensuite m'a fait reconnaître certains médias, etc. Et c'est vrai que c'est un super conseil que tu donnes, le fait de juste aller chercher un petit succès en quelque sorte aussi, tester des choses. Ouais. Alors après, pour aller...
Ah non, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est exactement, ça fait partie de ce que j'enseigne. Tu vois, ouais. Je suis un spécialiste du marketing de contenu. Et j'ai toujours, mais ça sert à quoi d'avoir mon contenu? Prends la poussière sur votre disque dur, ça n'a aucun intérêt. Autant à le publier. Dans le pire des cas, il n'y a personne qui le verra, donc ça ne changera rien. Et dans le meilleur des cas, bah, ça peut peut-être vous apporter une audience, des gens. Et des fois, il ne suffit pas de grand-chose. J'ai un de mes élèves, Roy Palace, qui enseigne le dessin en ligne. Il avait publié une vidéo sur Dailymotion à l'époque. Alors que déjà, aujourd'hui, Dailymotion, c'est pas incroyable en termes de trafic, mais à l'époque, c'était pas non plus génial. Et c'était une vidéo YouTube qui avait mis aussi sur Dailymotion. C'était un conseil que j'avais donné. Mettez votre contenu partout où vous pouvez. Et il m'a dit, j'ai pas eu beaucoup de vues, mais parmi ces vues-là, il y avait un réalisateur de cinéma dont j'étais ultra fan, qui a aimé mon travail et qui m'a contacté. Enfin, tu vois, mais des fois, c'est pas la quantité, c'est aussi la qualité de ce que tu as.
Carrément.
Donc, je suis entièrement d'accord avec ça. Et ça peut, d'ailleurs, en tant que photographe, vous créez du contenu, qui sert les photos. Et effectivement, il faut penser à les mettre là où ça peut être vu, plutôt qu'à laisser dormir dans un endroit où vous êtes certain que personne ne l'a jamais vu.
C'est clair. Ça me fait arriver sur une question que je vais te poser par rapport au blogging et par rapport au marketing de contenu, parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça fait déjà vieux de dire ça, mais il y a tellement de contenu publié tous les jours. Il y a tellement de facilité aussi à faire de l'ads, à faire de la stratégie de contenu rémunéré, enfin payé pour que les gens voient le contenu directement. Et il y a tellement de concurrents surtout, prenons aussi YouTube, tu vois, il y a tellement de vidéos qui sont publiées tous les jours. Est-ce que ça a encore du sens? Je sais ce que tu vas répondre, mais je te pose quand même la question. Est-ce que ça a du sens de se lancer dans cette stratégie de contenu, sachant que les photographes sont beaucoup sur Instagram, c'est quand même le média numéro un pour eux.
Oui.
Et malheureusement, la plupart du temps, ils n'ont que quelques centaines d'abonnés ou quelques likes qui traînent par-ci, par-là. Et souvent, là, on arrive à l'étape 2, une fois qu'on s'est lancé, c'est souvent d'abandonner ou d'être frustré et de lâcher l'affaire. Parce qu'on dit que ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Ça, je pense, c'est commun peut-être à d'autres industries que tu côtoies au quotidien. C'est quoi ton conseil pour ça?
Le succès en ligne, à peu près tout, c'est une des grandes clés du succès, c'est la persévérance. Après, il faut faire ce que j'appelle de la persévérance intelligente, dans le sens où, tu vois, si tu veux faire un trou dans un mur et que ta méthode, c'est de te taper la tête contre le mur pour faire un trou, bon, peut-être qu'au bout d'un moment, si tu vois que ça ne marche pas et que tu as mal au crâne, il faut peut-être changer la méthode, tu vois. Donc, il y a la persévérance bête et méchante, on va dire, et il y a la persévérance intelligente. Donc, il faut essayer le plus possible d'être dans la persévérance intelligente. Et la grande question, justement, c'était, bah, du coup, OK, mais comment on sait si notre projet va fonctionner ou pas? Quand est-ce qu'on sait que si on doit arrêter ou s'il faut continuer? Et la réponse à ça, c'est que bah, on ne sait pas en fait. Sinon, ça serait trop simple et tout le monde serait millionnaire, n'est-ce pas? Je pense que c'est un mix de persévérance bête et méchante, dans le sens où, OK, je veux vraiment y arriver, je ne vais pas abandonner, mais aussi de méta-persévérance. C'est-à-dire qu'on peut changer la méthodologie, mais sans changer l'objectif final. Si votre rêve, c'est d'être... je sais pas, reconnu. Quels sont les rêves classiques de ton audience?
Ouais. Si on prend un photographe de presse, ce qui revient le plus, c'est le graal absolu pour un photographe de presse, c'est d'être publié dans des très grands magazines, notamment National Geographic, tu vois, des trucs qui sont très prestigieux.
D'accord.
Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, je l'ai vécu quand j'ai commencé. Au début, tu es presque prêt à faire ça gratuitement et même limite payé pour que tes photos soient utilisées dans des grands événements, des grandes campagnes de pub, etc. Après, tu te rends compte que tu peux être bien payé, voire même très bien payé pour ça. Donc après, tu changes de mindset. Mais on va dire, ouais, au début, c'est ça. C'est, tu te lances dans ce métier pour avoir de l'impact, pour faire en sorte que tes photos soient vues, soit pour dénoncer quelque chose, montrer quelque chose, véhiculer un message. Et donc, il y a cette dimension au-delà de l'argent presque. Après, il y a bien sûr cet accomplissement personnel d'être capable de vivre de ce métier. C'est assez compliqué. Et du coup, de réussir à vivre de ce métier pleinement sans te prendre la tête sur tes dépenses, etc. C'est un grand accomplissement aussi.
Oui, donc je pense que ça c'est pas forcément bête de se dire si le but premier, et ça peut même remettre le pied à l'étrier, c'est d'être publié dans un grand magazine, de faire en sorte que ce soit gratuit, peut-être pas de payer parce que là on rentre dans un débat éthique un peu plus prononcé, mais de dire écoutez, je suis prêt à vous offrir cette photo juste pour respecter ce que vous faites et ça va me faire plaisir, de mon côté ça va m'aider aussi. Pourquoi pas, tu vois. Après, je ne pense pas que ça soit ça qui fasse vraiment la différence dans un magazine. Oui. Et donc, pour accomplir cet objectif, je pense que là, la métapersévérance est la clé. Et pour ça, pour faire une métapersévérance intelligente, il faut identifier toutes les méthodes possibles qui peuvent amener au résultat. Et un entrepreneur américain, je ne sais plus son nom, se disait, on lui demandait comment il avait fait pour avoir autant de succès. Il dit, voilà. J'ai appris 100 méthodes, je connais aucune méthode pour avoir 100 clients, et j'ai appris 100 méthodes pour avoir un client et je les ai toutes faites.
Mmh.
Et tu vois, il y a cette idée comme ça que on ne laisse aucun angle mort.
Mmh.
Et on va vraiment mettre le couteau entre les dents et y aller. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé, et c'est là aussi où tu as une sélection naturelle qui se fait entre les gens vraiment motivés par leur objectif et ceux qui se disent, oui, bon, si ça me tombe comme ça au coin de la rue, je vais pas dire non, mais voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Donc au final, c'est aussi important de choisir un objectif qui nous motive vraiment et où on est prêt, pour lequel on est prêt à mettre le couteau entre les dents et y aller. Donc là, pour ces photographes qui veulent être publiés dans un grand magazine, recensez toutes les méthodes possibles pour atteindre l'objectif. Et une des meilleures manières de faire ça, parce que si vous faites ça juste dans votre coin en réfléchissant, vous allez en trouver sa peine, mais vous allez aussi ne pas penser à d'autres qui pourraient marcher. Donc le meilleur pour ça, c'est de demander à des gens qui l'ont déjà fait, en fait. Hein. C'est comme quand vous voulez explorer une jungle, il vaut mieux demander aux gens qui sont déjà allés dans la jungle quelles sont les étapes, plutôt que d'y aller comme ça à l'inconnu. Rencontrer les photographes qui sont ce que vous venez de devenir et posez-leur les questions. Ouais. Et identifiez les méthodes comme ça et puis faites-le. Bon.
Ça fait penser à, je crois que c'est la phrase d'Edison qui disait « J'ai pas trouvé une façon de créer les ampoules, j'ai trouvé 1000 façons de pas réussir à le faire. » Dans le genre. Mais effectivement...
Je veux dire, à partir du moment où leurs photos sont de suffisamment bonne qualité, c'est juste une question de temps, ou non, il y a quelque chose qui doit marcher.
Ouais.
Ça, c'est clair. Hein.
Ouais. Parlons un peu d'apprentissage, parce que c'est aussi une des compétences que tu as et que tu exprimes très bien à travers notamment ton livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » que tu as sorti en 2018.
Fin 2016.
J'ai retrouvé. Qui est un succès en librairie d'ailleurs, qui était best-seller assez rapidement. À l'intérieur, dans ce livre, qui est assez conséquent en termes de contenu, tu parles beaucoup du fait d'apprendre à apprendre, parce que c'est une compétence que l'éducation nationale a un peu du mal à justement apprendre aux gens.
Ils n'y arrivent pas du tout. Enfin, c'est une des critiques que je fais dans mon livre, c'est que tu peux passer 20 ans de ta vie sur les bancs de l'école ou plus et qu'on ne t'apprend jamais à apprendre. Chercher l'erreur.
Il y a un parallèle à faire avec la photo parce que dans les écoles de photo, alors moi je ne suis pas passé par la case école photo, mais j'ai donné des cours en école photo.
C'est encore mieux.
Ouais, et en fait ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas de cours pour apprendre à vendre ses photos. Mmh. C'est-à-dire que quand tu es photographe, tu vas dans une école photo, alors tu en as des très bien gratuites, publiques, etc. Tu en as des très chères, très bien aussi sur la partie apprendre à faire une photo, mais tu apprendras à tout, tu apprendras à gérer la lumière, tu apprendras le matériel, etc. Mais tu apprendras à aucun moment, sauf exception bien sûr, à trouver des clients, monter un business, gérer des collaborateurs si on a besoin, gérer ton client, gérer la fidélisation, etc. Et c'est pour ça que moi j'intervenais dans ces cursus-là, tu vois. Et je trouve ça assez dingue parce que C'est un peu le problème pour plein d'autres boîtes d'ailleurs, enfin pour plein d'autres spécialités, d'autres industries. Tu vois, on apprend aux gens à avoir une compétence, mais on leur apprend pas à prendre du recul dessus pour essayer d'envisager, tu vois, ne serait-ce que aller chercher des idées à droite à gauche. Avant toi, il y a Stan, Marketing Mania, qui est passé dans le podcast pour parler de marketing et qui expliquait ça justement, le fait d'un bon marketeur c'est, ou un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher des idées dans d'autres univers qui ne sont pas les siens. Et tu connais ses vidéos, à chaque fois, il va t'expliquer la technique marketing de PNL ou d'un rappeur ou d'un footballeur ou d'un militaire pour apprendre à être visible sur YouTube. Et c'est là où tu crées de l'innovation, tu crées de la réflexion, de l'intelligence. Comment toi, tu perçois ça et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu dis dans le livre justement sur cette question de l'éducation?
Oui, mais je suis d'accord que c'est vraiment une force de savoir prendre des choses dans des domaines qui ne sont pas reliés, de pouvoir les appliquer dans d'autres domaines. Parfois, le succès, mais vraiment le grand succès, c'est juste d'appliquer un truc qui est complètement banal dans une industrie, mais que dont personne n'a entendu parler dans une autre industrie. C'est aussi simple que ça. Ouais. Des fois, il y a des gens qui sont milliardaires simplement en voyageant dans le temps. Alors, qu'est-ce que je veux dire par voyager dans le temps? Bah, ils sont allés dans le futur, à savoir aux États-Unis, puis ils sont allés dans le passé, donc en Europe, en Asie, ou ce que tu veux, et puis ils ont juste importé les idées du futur vers le passé, hein, tout simplement. Et il y a l'auteur de science-fiction, William Gibson, qui dit une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « Le futur est déjà là, il n'est juste pas équitablement réparti. » Et donc, tu peux aller chercher des poches de futur, comme ça, c'est pas forcément aux États-Unis, mais souvent c'est aux États-Unis, et aller aider à répartir le futur, parce que le futur n'est pas bien réparti. Et ce qui est génial aujourd'hui avec Internet, c'est que tu n'es même pas obligé d'aller te déplacer, tu peux littéralement aller voir sur le web ce qui se passe ailleurs et appliquer des idées comme ça. Donc on va dire que de manière générale, il y a des exceptions, il y en a plein. Le présent, c'est l'Occident de manière générale, le futur, c'est les États-Unis et puis le passé, c'est les pays en voie de développement. Mais parfois, tu as des idées de business dans les voies en développement qui n'ont pas été appliquées ailleurs, tu peux aller amener ailleurs. Donc voilà, et tu as des frères allemands, je ne me rappelle plus leur nom, ils sont des jumeaux. Sont devenus milliardaires comme ça en créant le eBay européen, le Facebook européen.
Bah, Alibaba, c'est ce qui s'est passé avec Jack Ma. Jack Ma a créé Amazon en Chine, ce qui a propulsé ensuite la Chine dans l'ère du numérique et d'Internet.
Voilà, et pour des artistes, ça peut sembler être un peu sacrilège de faire ça parce que c'est vrai qu'il y a une dimension, dans la dimension artistique, l'originalité, la créativité est extrêmement importante. Mais dans les faits, alors en entrepreneuriat, c'est pas aussi important. Je veux dire, une fois que la roue a été inventée, vous n'allez pas la réinventer, vous n'allez pas faire une boucle carrée. Par contre, vous pouvez apporter énormément de valeur à votre pays en important la roue le premier et en développant les applications pour que les gens utilisent ça. Mais au-delà de ça, même les artistes, quand on regarde de manière honnête, il n'y a personne qui se crée comme ça à partir de rien. Comme je dis toujours, si on met Michel-Ange dans la préhistoire, au plus mieux dans la jungle, il ne va pas nous faire David. Hein. Donc, c'est aussi inspiré de ses maîtres, d'autres personnes. Il a eu accès aux technologies de son époque pour pouvoir faire ce qu'il avait. Donc, personne créé dans un ordre vide absolu. Mais voilà, pensez à ça. Mais au-delà de la photographie, qu'est-ce que vous repérez qui fonctionne dans d'autres domaines et qui peut-être ne marche pas dans votre domaine? Est-ce que tu peux... et donc, tu demandais aussi en termes d'éducation.
Ouais. Comment on apprend à apprendre? Ça, c'est une question qui est clé, tu vois. Et parce que... C'est presque du bon sens que tu as dit de la question de tu veux atteindre un objectif A, bah tu vas voir le mec qui a déjà obtenu l'objectif A et tu te demandes comment on fait tout simplement.
Mais très peu de gens font.
Exactement.
Oui.
Pourquoi?
Ben oui, mais en fait, il y a plein de problèmes dans le système éducatif moderne. J'ai écrit tout un bouquin là-dessus, donc je vais pas refaire la thèse. Mais en gros, un des problèmes, c'est que non seulement tu n'apprends pas à apprendre, et en plus, tu ne donnes pas aux jeunes. L'envie, oui, il donne la compréhension que c'est ultra important d'apprendre tout au long de cette vie. Et autant c'était pas vraiment justifié, mais ça se comprenait un peu plus quand le système éducatif moderne a été créé, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle dans la plupart des pays occidentaux, parce qu'à l'époque, les technologies n'évoluaient pas aussi vite, et à la limite, tu pouvais faire le même métier toute ta vie. Aujourd'hui, au 21e siècle, si ça ne prend pas toute ta vie, tu vas te faire larguer complètement. Déjà, on voit bien. Les gens, moi j'ai 42 ans, moi j'ai vu l'apparition du numérique et d'Internet dans nos vies, ça a complètement chamboulé les métiers, hein, faut le dire. Alors, pas tout, mais une énorme partie des métiers. Et les gens qui ne sont pas mis à l'informatique, par exemple, se sont fait larguer. Là, ça va être pareil avec les outils d'intelligence artificielle et plein d'autres choses. Donc, c'est devenu indispensable à notre époque d'apprendre à apprendre au-delà de ça, c'est d'apprendre tout au long de sa vie et d'être dans une formation continue et d'avoir le réflexe d'apprendre par soi-même. Et c'est un des gros reproches que je fais au système éducatif, c'est qu'il y a trop de gens qui sortent du système éducatif en étant... Ils ne l'ont pas conscientisé, donc ils sont persuadés inconsciemment qu'ils n'auront pas vraiment besoin d'apprendre une fois qu'ils ont leur diplôme en poche. Bien sûr qu'ils se disent oui, j'ai peut-être faire des formations dans mon métier, tout ça, mais ils n'ont pas cette notion d'apprentissage aussi, de manière aussi intense qu'ils ont fait à l'école. Et il y a beaucoup trop de gens qui ont cette croyance inconsciente aussi de se dire le seul apprentissage réel, c'est dans une école. Alors que, au final, tu peux apprendre bien plus si c'est, enfin, tu peux apprendre autant si c'est mieux en lisant des très bons livres. Parce que quand tu regardes, quand tu arrives à la fac à peu près, moi j'ai pas fait la fac, mais j'ai vu un peu ce qui se passait pour les autres. Même quand tu arrives à un certain niveau, même au lycée, les profs te donnent les livres qu'ils ont utilisés pour faire leur cours. Mmh. Bah, tu peux aller lire ces livres directement en fait. Et le prof, s'il est bon, s'il est pédagogue, il va peut-être te simplifier certaines connaissances qui t'auraient semblé complexes, mais la plupart des profs ne sont pas si bons que ça, en fait, hein, quand tu regardes. Et je veux dire, on est tous tombés sur un mauvais prof qui transformait les trucs simples en trucs compliqués. Hein,
et qui détestait quelque chose d'appréciable.
Absolument. Et t'ont fait dire, moi, par exemple, j'étais bon en mathématiques jusqu'en 5e, 4e, je suis tombé sur une prof catastrophique, et à partir de la 4e, je suis devenu mauvais en maths. Voilà, bon, on a tous, je pense, connu des histoires comme ça. Et dans les faits, tu peux aller chercher les meilleurs pédagogues, vivants ou morts, à travers nos livres. Et aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux même aller chercher sous forme de vidéos YouTube, de tutos. Je veux dire, les universités les plus prestigieuses mettent en ligne leurs cours à vitesse grand V. Hein, et donc aujourd'hui, j'en parle dans mon livre, mais c'est une grosse disruption pour les profs. Et beaucoup de gens ne sont pas encore rendus compte, c'est que tu n'es plus bloqué avec ton prof médiocre ou mauvais dans ta salle de classe. Tu peux aller chercher les meilleurs profs du monde. Parce que c'est aussi sélection naturelle. C'est logique que meilleur le prof est, et plus il y a de chances qu'il y a quelqu'un qui lui propose de filmer ses cours pour le mettre en ligne, tu vois. Ouais. Et à partir de là, ça se répand à une vitesse. Tu avais le prof de physique du MIT, Azu, tu me rappelles son nom là à l'instant T, qui était extrêmement renommé au MIT pour ses cours extrêmement pédagogiques en physique, parce qu'il faisait des démonstrations vraiment impressionnantes. C'était une célébrité au MIT, mais à l'extérieur, personne ne le connaissait. Et à partir du moment où ses cours ont été mis en ligne, il a été vu par des millions et des millions de personnes.
Comme Jordan
Peterson avec la psychologie. Voilà. Donc aujourd'hui, on a accès à une somme de connaissances incroyables. On a accès aux meilleurs profs du monde. Ils sont juste à littéralement un ou deux clics de vous. Il faut en profiter. Il faut avoir le réflexe de faire ça, et je recommande quand même de lire des bons livres. Moi, c'est ma manière principale d'apprendre, alors c'est pas fait pour tout le monde. Ma conjointe, elle n'aime pas lire, mais elle a trouvé le hack pour compenser ça, c'est que du coup, elle écoute les livres sous forme audio. Hein. Aujourd'hui, à peu près tous les bons livres sont sous forme audio, donc faut savoir profiter de ça. Mais vraiment prendre conscience que si on n'a pas une démarche d'apprentissage continu régulière, vous allez vous faire larguer. Et je donne toujours, tu vois, cet exemple, de dire, imaginons que vous lisiez deux livres vraiment bons tous les mois. Ce qui est franchement pas un objectif difficile à atteindre. Au bout de 10 ans, ça va faire 240 livres de qualité que vous aurez pu. Oui. Je veux dire, est-ce que, imagine deux univers parallèles, l'univers parallèle dans lequel tu n'as pas lu ces livres, à la place, je sais pas, tu as regardé des médias sociaux, tu as regardé des conneries, ou tu as regardé un peu trop Netflix, tu vois. Et deuxième univers parallèle, tu as lu 240 livres de qualité. Tu crois pas que ça va faire une différence dans ton horizon intellectuel, tes connaissances, ta capacité à utiliser les bons outils au bon moment, et aussi tes résultats? Bien sûr que oui. Alors bien sûr, derrière, il faut appliquer, hein, ça ne sert à rien d'apprendre juste pour apprendre, même si une personne, moi j'aime bien apprendre juste pour apprendre, mais voilà, j'essaie de trouver le bon équilibre pour aussi à mettre en place ce que j'apprends. Et je veux dire, même si c'est un livre par mois, au bout de 10 ans, ça fait 120 livres. C'est juste démentiel en fait. C'est l'équivalent de plusieurs doctorats, enfin je veux dire, il faut se rendre compte de ça. La plupart des gens n'en ont pas conscience, et au pire de ça, tu regardes autour de toi, c'est facile de constater. J'encourage tous ceux qui nous écoutent à faire l'expérience par eux-mêmes. Demandez autour de vous, est-ce que tu lis régulièrement des livres pratiques de qualité? Vous verrez que 95% des gens vont vous dire non. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
Est-ce que ça s'est pas lié au fait que les gens, globalement, et je me mets dedans aussi, on a l'impression que lire c'est chiant. Que c'est un truc, tu sais, quand t'es jeune, c'est un truc de vieux, que c'est pas agréable, et qu'en plus, ce qu'on t'oblige à lire de force à l'école, la fameuse liste de lecture, est pas forcément super intéressante, c'est pas forcément les meilleurs livres, tu t'en rends compte plus tard que c'était pas ça qu'il fallait lire, mais autre chose. Du coup, t'as pas ce. Et tu vois, en plus, quand tu discutes avec des gens qui ensuite ont 20, 30, 40 ans, qui redécouvrent le truc parce qu'ils ont un intérêt, il faut qu'ils lisent ce livre pour comprendre quelque chose, ben ils disent, en fait, c'est cool de lire, tu vois. Mais c'est parce que c'est le sujet qui change.
Et tu vois, moi, c'est drôle parce que j'ai toujours aimé lire, mais j'ai quand même fait une erreur dramatique, vraiment la pire de ma vie pendant 8 ans. C'est que pendant les 8 premières années pendant lesquelles j'étais entrepreneur, j'ai pas eu un seul livre pratique parce que j'adorais lire des livres de fiction, mais je n'avais pas compris que c'était intéressant de lire des livres pratiques. Et il y a un livre qui m'a ouvert les yeux là-dessus, qui m'a ouvert les chakras, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, puisque c'est ce livre qui m'a justement mis sur la voie d'avoir un business au service de sa vie, donc sa vie au service de son business. Et en fait, donc déjà, tu vois, je lis ce livre en un week-end et ça change complètement la vision d'un métier que je pratiquais depuis 8 ans. Je me suis dit, donc là, je me prends une baffe, tu vois, j'ai les joues rouges. Je me dis, waouh, incroyable. Il y a un des livres qui est recommandé à la fin, c'est The Big Myth, le mythe de l'entrepreneur. Je crois que c'est traduit sous le nom de mythe de l'entrepreneur français de Michael Gerber, qui me fait ce commande, je le lis. 2 semaines après, et là, boum, deuxième baffe, il y avait les deux joues rouges parce que ça m'expliquait pourquoi dans mon business, j'étais esclave de mon business alors que j'avais créé pour devenir libre. Là, je me dis, ok, je lis 2 livres en 15 jours qui changent complètement ma vision de mon métier que je pratique depuis 8 ans. Peut-être que je devrais en lire d'autres. Il y a peut-être d'autres livres exceptionnels qui m'attendent et qui vont aussi me permettre de changer ma vision. Puis ça a changé ma vision et donc mes actions et donc ma vie. Et c'est ça qui m'a donné le réflexe et l'envie de lire des livres pratiques. Donc, alors j'aimais déjà lire, c'était un atout, mais je pense que ça va être la même chose pour la plupart des gens qui n'aiment pas lire. C'est-à-dire qu'il suffit de trouver un livre qui vous interpelle et qui change votre vision de manière importante sur un sujet qui nous tient à cœur, en fait. Et ça suffit. Ça va vous lancer, en fait. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas lire. Après, il y a des gens qui vraiment physiquement n'aiment pas lire, comme ma conjointe. Dans ce cas-là, il y a les livres audio. Hein, encore une fois, et ce qui est génial avec les livres audio, c'est que vous pouvez faire ça en faisant autre chose. Ça ne prend pas de temps à votre journée. Il y a des gens qui passent 1 à 2 heures par jour dans les transports. Que ce soit transport en commun ou voiture, pourquoi pas utiliser de manière productive. Vous pouvez d'ailleurs lire des livres dans les transports en commun, même en voiture, vous pouvez écouter. Vous pouvez faire ça en faisant la vaisselle, en faisant du sport. Bon, sauf si c'est un sport qui demande beaucoup de concentration, mais il y a énormément d'activités que vous pouvez faire tout en écoutant un livre audio. Et c'est infiniment mieux que, d'écouter les grosses têtes. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous ne jamais se détendre et qu'on n'a pas l'air de regarder Netflix. Hein. Et simplement d'ajouter un peu de lecture dans votre vie tous les jours, ça ne va pas vous tuer, au contraire, ça va vous apporter énormément de choses.
Ouais, c'est clair, c'est très vrai. Je pense que tous les deux, on a un point commun qui est, on a écrit des livres. Pour écrire ces livres, on a dû faire beaucoup de recherches, donc on a lu beaucoup de livres. Et je ne sais pas toi, mais à chaque fois, c'est la partie la plus plaisante, je trouve, quand tu rédiges un bouquin, c'est la partie avant, quand tu fais ces recherches, quand tu commandes des 30 livres sur Amazon qui partent déjà de cette thématique pour essayer de tout comprendre, voir les sources, etc. Et c'est là où t'as un vrai, où t'apprends le mieux. Et quand tu, j'ai l'impression que quand tu te donnes l'objectif fictif ou réel d'ailleurs, hein, ça peut pas forcément être vrai, mais le fait de vouloir transmettre quelque chose à quelqu'un, apprendre quelque chose à quelqu'un, bah forcément tu l'apprends mieux toi-même.
Absolument. Je pense que de toute façon c'est même pas que je pense, c'est que j'ai étudié justement les hacks pour apprendre plus efficacement et ça fait partie des hacks les plus scientifiquement prouvés, c'est-à-dire que enseigner c'est vraiment une des meilleures manières d'apprendre. Parce que tu es obligé en fait quand tu t'es obligé quand tu as une certaine conscience professionnelle, d'accord, mais on va dire que tu es obligé quand tu enseignes d'avoir une vraie clarté sur ton propre savoir et de packager ton savoir de manière compréhensible et avec une vraie structure et un fil, une progression. Et c'est important parce qu'en fait, on a différents niveaux de clarté par rapport à nos propres connaissances. Je crois que c'était Boileau qui disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Et je pense que ça nous est déjà tous arrivé. On venait d'apprendre quelque chose et on était un peu excité par rapport à ça. On en parle à un ami. Et l'ami nous pose une question. Et là, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas tout compris, en fait. Et on se dit, ah tiens, oui, je sais pas, en fait. Et là, on est en train de réfléchir, on se dit, tiens, oui, je sais pas, en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que des fois, on est excité par rapport à ce qu'on a appris. On se rend compte, grâce au questionnement de quelqu'un d'autre, qu'en fait, on a une certaine confusion par rapport à notre propre savoir. Mm. Donc, enseigner. Ça permet de déboucher les zones d'ombre et de se rendre compte de ces éléments sur lesquels on a une certaine confusion et puis on va aller les clarifier, les déboucher en se formant, en se posant les questions, en réfléchissant, etc. etc. Et donc, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a plus de 400 références scientifiques dans mon livre, donc j'ai fait énormément de recherches et c'est génial. Moi, j'adore ça. Là, je suis en train d'écrire un deuxième livre sur la description des étapes par Internet, qui est un sujet extrêmement complexe, fascinant mais complexe. Et je suis en train de lire, enfin, j'ai une dizaine de livres, effectivement, sur le sujet, c'est très, très intéressant. Et d'ailleurs, ça m'a fait très plaisir, il y a quelques mois, dans une soirée ici à Dubaï, j'ai rencontré un chercheur du CNRS qui avait lu mon livre. Il m'a dit, Olivier, il faut que je te dise, c'est que t'as fait, pour moi, tu as fait une thèse, en fait. Ça m'a fait plaisir qu'il dise ça, parce que c'est comme ça que je l'ai vu, en fait.
Bon.
Donc, bon, tout le monde, je ne dis pas que tout le monde aurait écrit un livre de ce format-là, hein, mais effectivement, quand vous allez partager vos connaissances, c'est là où vous confrontez à la réalité et que vous allez avoir une bien meilleure compréhension de votre propre cerveau.
Ouais. Tu peux nous en parler un peu de ce livre, ce nouveau livre que tu es en train de rédiger en ce moment ?
Oui, je ne sais pas si ça va vraiment intéresser ton audience, mais...
Je pense que si, parce qu'au final, les gens qui écoutent sont curieux, sont désireux d'apprendre de nouvelles choses, et c'est un peu le but quand tu es photographe et, ou photojournaliste, d'ouvrir un peu ton esprit pour apprendre de nouveaux trucs.
Oui, bah écoute, je parle du fait que Internet, la mondialisation, et puis de manière générale, les technologies de transport... sont en train de complètement disrupter les États-nations tels qu'on les a connus. Alors, c'est un vaste sujet, hein. Mais les États-nations, beaucoup de gens pensent inconsciemment que c'est une structure qui a toujours existé. Alors, en fait, c'est extrêmement récent dans l'histoire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un État-nation ? C'est une nation, donc un peuple, qui a l'impression d'être un peuple commun qui va se doter d'un État. Donc, en Occident, c'est surtout des États démocratiques. Mais donc, quand tu décomposes ça, en fait, tu te rends compte que la nation, c'est un concept récent. Donc, je prends l'exemple de la France, qui va être probablement l'exemple que les gens connaissent le plus parmi ton audience, c'est récent. Que quelqu'un qui est en Bretagne se sente faire partie de la même nation que quelqu'un qui est à Marseille. Tu prends la France, le Royaume de France de 1500, c'est un patchwork de régions, enfin plutôt de fiefs féodaux, avec une disparité de langue qui est énorme, parce que chaque région avait sa propre langue régionale, il n'y avait pas forcément une intercompréhension énorme. Hein. C'est un peu comme le portugais et l'espagnol aujourd'hui, c'est proche, mais ça reste de langues différentes. Il y a plein de moments où les gens ne vont pas se comprendre s'ils parlent ça. Et donc la France, c'est un patchwork de langues régionales. Le français, en fait, c'est le parisien, c'est littéralement la langue de Paris à la base et du domaine du roi autour de Paris. Il y a une variation en termes de culture qui est énorme entre chaque région. Et quelqu'un, un breton, ne va pas se sentir faire partie de la même communauté qu'un Marseillais, clairement pas. Ou un parisien par rapport à un Toulousain. Donc, c'est récent dans l'histoire qu'un breton va se sentir davantage pensé comme breton. On en parlait ce midi, mais si je prends un François qui vit en 1500 en Bretagne et un François qui vit en 2000 en Bretagne, le François de 1500 va se sentir comme un breton qui est aussi sujet du Royaume de France, alors que le François de 2000 va se sentir comme un Français qui vient de Bretagne. Il y a des variations d'ailleurs. En Bretagne, il y a probablement une culture régionale un peu plus forte que dans d'autres cultures, comme la Corse par exemple, enfin, souvent les îles c'est comme ça. Il y a peut-être d'ailleurs des Bretons qui se sentent Bretons un peu français, mais on va dire comme de manière générale, le François de Bretagne se sent Français qui vient de Bretagne plutôt qu'un Breton qui est aussi sujet du Royaume de France. Tu vois la différence et d'ailleurs, c'est comme aujourd'hui, on pourrait dire je suis un Français qui est aussi européen. Peut-être que dans 200 ans, les gens diront je suis un Européen qui vient de France. Mmh. Ou pas, hein, voilà. Donc, tu te rends compte que tout ça, c'est récent. Et quand tu te demandes mais pourquoi c'est récent, tu vois qu'en fait, il y a eu des disruptions technologiques qui ont amené un territoire qui était aussi disparate à se considérer comme étant celui d'un seul peuple. Et que, en fait, ça vient de plusieurs inventions, mais l'invention principale, c'est l'imprimerie. C'est ça qui a permis, en fait, de répandre une langue beaucoup plus facilement qu'avant sur un territoire qui était immense par rapport aux moyens de transport de l'époque, hein, qui n'est plus aujourd'hui, hein, ça c'est clair. Tu vois, bah, ce qui explique, entre autres, que les États-Unis soient aussi grands, c'est que ce pays s'est constitué à une époque où on n'était pas loin du chemin de fer, et où il y avait déjà l'imprimerie, et où très vite, un siècle après la Constitution, il y avait le télégraphe et d'autres moyens de communication rapides qui se sont développés. Donc c'est un pays qui a pu bénéficier de toutes ces technologies pour avoir une cohérence sur un territoire. La Russie, c'est encore une autre histoire, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans en détail. Donc tu te rends compte que ça vient avant tout de l'imprimerie, ça vient aussi de la poudre à canon, de manière étonnante, parce que qu'est-ce qui explique que les territoires soient aussi délimités pendant le Moyen-Âge ? C'est qu'il y a eu quelque chose d'assez unique dans l'histoire, c'est que pendant à peu près, on va dire, un peu moins de 1000 ans, les technologies de défense étaient supérieures à l'attaque. C'est-à-dire que c'était plus facile, toutes choses égales par ailleurs, de construire un château que de le prendre. Parce que c'était les technologies de des châteaux et sont devenus tellement bons que c'est compliqué avec des, même avec les trébuchets, des catapultes de les prendre. C'était pas, il y avait aucun château qui était imprenable, ça n'existait pas. Mais par contre, c'était des sièges duraient des mois, c'était un freaknose, c'était ultra coûteux en vie aussi pour les assaillants et les défenseurs avaient un immense avantage. À partir du moment où la poudre à canon arrive, alors pas au tout début parce que les premières arquebuses, les premiers canons étaient vraiment très primitifs, mais à partir du moment où ça commençait à se perfectionner, donc on va dire à partir du 15e siècle, ça commençait à s'arrêter et les technologies d'attaque sont plus fortes que la défense. Ça veut dire que le roi, au Moyen-Âge, était obligé de négocier avec les seigneurs. Le roi pouvait prendre n'importe quel château, mais il ne pouvait pas en prendre 10, 20, 30. Donc il était obligé. Donc, s'il y avait un seigneur parmi tous ces seigneurs qui se révoltaient, il pouvait le détruire sans problème. Mais s'il y avait une révolte de une vingtaine de seigneurs, il ne pouvait rien faire, il était obligé de négocier. Ça forçait aussi un certain émiettement politique qui accompagnait l'émiettement culturel. Et à partir du moment où la poudre à canon est arrivée, ça a changé le rapport de force, c'est celui qui était capable de financer la plus grande armée avec les meilleurs canons avait l'avantage. Et donc forcément, le roi, à partir de ce moment-là, a commencé à avoir un avantage. Et donc du coup, c'est là que l'absolutisme a commencé à se développer, et ça a culminé en France sous Louis XIV. Hein, c'est pas pour l'appeler le roi soleil, parce que c'était le soleil et tout tournait autour de lui. Oui. Et tu prends en fait les seigneurs, à l'époque du Moyen-Âge, ils étaient tout puissants sur leur fief, ils étaient vassaux du roi, mais ils avaient énormément de pouvoir par rapport au roi. Tu prends les seigneurs à l'époque de Louis XIV, c'était des courtisans à la cour qui devait surtout faire attention à ne pas froisser le roi, à bien lui plaire, à rivaliser de bons mots pour bien se positionner parce que le pouvoir était complètement centralisé, les seigneurs étaient à la merci du roi et devaient lui plaire en fait. Et toutes les décisions se prenaient à la cour de Versailles qui était le point central du royaume. Donc tout ça explique en grande partie le process de nation building qui a permis de créer une internation de la France, et ça a été à peu près similaire dans les autres pays occidentaux et avec des différences, bien sûr. Donc, bon, donc tu vois, c'est un ça va se sujet, c'est pour ça que je t'ai dit. Et donc, aujourd'hui, tu peux faire le parallèle avec les rapports de force d'attaque et de défense qui s'inversent. Tu vois, par exemple, moi, je suis un entrepreneur qui vient de France, qui vit à Dubaï. Je vends sur Internet, dans le monde entier, mais j'ai beaucoup de clients en France. Et pourtant, je suis fiscalisé ici. Ça fait partie, d'ailleurs, pour certaines personnes qui nous écoutent, c'était déjà une hérésie, tu vois. C'était déjà des gens qui sont en train de s'énerver en disant, mais oh, quel traître, etc. Parce que ça va aussi à l'encontre d'un certain sentiment nationaliste et patriotique qui vient directement du processus de nation building. Mais justement, Internet permet aujourd'hui à des gens comme moi de facilement s'exiler tout en rendant la tâche pour le gouvernement qui voudrait, le gouvernement français par exemple, qui voudrait m'empêcher, la tâche difficile. Mmh. Donc tu vois, Internet change le rapport d'attaque et de défense sur certains aspects entre les citoyens et l'État. Alors que si tu voulais faire business dans un pays avant Internet, bah, tu devais être dans ce pays avant. Alors qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir une présence physique. Et bon, pour en parler longtemps, mais sans présence physique, pour les États, y a comme la surface d'échange elle est extrêmement moindre, c'est compliqué. Et donc, je fais ce parallèle. Nous, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur nomade numérique, par exemple, tu peux facilement racheter des frontières dans ton setup. Et chaque frontière, c'est l'équivalent de, si tu construis des murailles, tu creuses des douves, que tu t'équipes d'un bon donjon. C'est plus facile à mettre en place pour toi que pour les autorités à défaire. Tu vois ouais. Et alors, d'autres exemples d'inversion de rapport de force, c'est le chiffrement, la cryptographie. C'est ultra facile. N'importe qui n'utilisait un chiffrement qui est impossible à casser pour les gouvernements. Ça aussi, c'est extrêmement nouveau. Donc, voilà.
La blockchain, la décentralisation.
Et donc, la crypto, c'est exactement ça. Regarde. Pareil, Internet permet beaucoup plus facilement à une masse de gens de se coordonner entre eux de manière décentralisée, sans que ce soit dans un pays. Et ça, c'est extrêmement disruptif pour les États-nations. Parce que là aussi, on a une inversion du rapport de force entre l'attaque et la défense. C'est pas David contre Goliath, c'est David contre des millions de Goliath, dont la plupart sont hors de portée de toute répercussion physique. Tu prends l'exemple du piratage de musique et de films. Il y a deux grands exemples, deux grandes dates dans cette histoire. Il y a Napster et il y a The Pirate Bay. Napster, ça a été créé en 99 et ça permettait aux gens voilà, d'échanger comme The Pirate Bay aujourd'hui, d'échanger des fichiers illégaux, enfin, c'était légal ou pas, c'était pas important, mais la plupart c'était illégaux. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il s'est attaqué à la société derrière Napster, et il a fait fermer. Pourquoi ? Parce que c'était un service centralisé, c'était une entreprise qui existait, avec pignon sur rue, qui gérait les serveurs et tout ça. C'était un élément centralisé. Quand c'est un élément centralisé, c'est facile pour le gouvernement d'attaquer. Ils savent faire. Derrière, il y a le protocole BitTorrent qui est inventé, qui est juste un protocole d'échange comme un protocole pour les emails, qui peut être utilisé pour de tas de manières différentes, y compris des manières légales, n'est-ce pas ? Et y compris des manières illégales. Et d'ailleurs, tu as The Pirate, qui est juste un site qui recense des liens torrent. C'est-à-dire que ce n'est pas le site de The Pirate Bay qui héberge les fichiers illégaux, c'est juste, il met juste en relation les gens qui les partagent. Déjà, tu vois la nuance. Et pendant plusieurs années, ça a été fait en Suède, pendant plusieurs années, les créateurs de The Pirate Bay pensaient être à l'abri de toute répercussion juridique pour ça. Au final, ils se sont quand même fait attaquer par la justice suédoise parce qu'il y avait eu beaucoup de pression de la part des ayants droit. Et ils ont été condamnés pour facilitation de mise en connexion des gens qui font des choses illégales. Tu vois, pas pour le truc illégal en tant que tel. Ok, donc ils sont fait condamner. Faire, tu vois, victoire, installation, oui. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont mis le code source de The Pirate Bay en libre service. Et aujourd'hui, n'importe qui, en trois clics, est capable de répliquer The Pirate Bay. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah, tu tapes The Pirate Bay dans Google. Je vous invite à faire l'expérience vous-même, hein, sans aller pirater, bien sûr. Bon, et c'est facile. Il y a des milliers de clones de The Pirate Bay. Ça fait 20 ans, il a été créé en 2003, The Pirate Bay. Il y a des milliers de clones dans le monde entier et les gens s'échangent allègrement les fichiers via The BitTorrent. Donc tu vois, qu'est-ce qui a fait que Napster a été fermé facilement alors que The Pirate Bay et BitTorrent, 20 ans après, ça existe toujours ? C'est que c'est un phénomène massif, décentralisé, international. C'est facile à mettre en place pour les gens et quasiment impossible pour les États à défaire les cryptos. C'est exactement la même chose. Une fois que c'est suffisamment décentralisé, c'est un des éléments que je mets en avant dans mon livre, c'est que voilà, à partir du moment où c'est décentralisé international massif, c'est à peu près sûr que ça va gagner contre les États-nations, dès que ça atteint la masse critique.
Tant qu'on parle de nouvelles technologies, on va aussi terminer sur ça, sur cet entretien. Tu as fait une formation il n'y a pas longtemps sur l'IA. On sent que tu t'es aussi beaucoup documenté dessus. Là, tu viens de faire exactement l'illustration de ce que tu as dit précédemment. C'est-à-dire qu'à force de lire des trucs, tu es capable d'expliquer assez facilement, et je pense que les gens comprennent l'intérêt du coup de ce que c'est un État-nation, comment c'est disrupté avec l'Internet, le blockchain, etc. Est-ce que l'IA, c'est selon toi une vraie révolution qui va dans ce sens-là de disrupter, ou est-ce qu'au contraire, c'est une façon peut-être de, vu que c'est très centralisé une IA par principe, et notamment l'IA dont tout le monde parle, d'OpenAI, ChatGPT, etc., qui est très californienne, avec ses biais, avec ses limitations intrinsèques. Est-ce que selon toi, c'est une régression, du coup, dans cette façon de disrupter ?
Oui.
Ou au contraire, est-ce que c'est une chance ? Est-ce qu'on va vraiment sur quelque chose de différent et qui va s'installer ?
Alors, oui, tout ne va pas vers la décentralisation. Hein, mais Internet est un phénomène avant tout décentralisé. Même si, bien sûr, il y a eu aussi une période de concentration. Je pense à tous les médias sociaux de zéro. Bah, c'est tous des grosses boîtes qui ont concentré leur... Il y a plusieurs YouTube. Mais dans les faits, il n'y a qu'un seul vrai YouTube. Dailymotion, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Alors, il y a peut-être l'équivalent russe parce que voilà, il y a des blocages et tout ça. Alors, en Chine, ils ont eu un pare-feu, donc forcément, ils ont tout répliqué pour la version chinoise. Mais de manière générale, il y a aussi une grosse concentration dans les médias sociaux parce que c'est winner take all. Quoi. C'est le gagnant remporte complètement le marché parce qu'il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser un autre YouTube quand tout le monde est sur YouTube, en fait. Mais sur l'IA, c'est une grande interrogation. Et ouais, c'est le truc, c'est que c'est tellement récent, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment réfléchir à ça. Et je pense que là, ça pourrait être un cas où effectivement les gouvernements acquièrent énormément de pouvoir. Alors, il y a aussi beaucoup de pouvoirs qui sont donnés par l'informatique aux États. C'est qu'aujourd'hui, le 1984 est techniquement possible. Quand George Orwell a écrit 1984, je crois que c'était en 1936, si je dis pas de bêtises, c'était de science-fiction. Aujourd'hui, c'est techniquement possible. La seule chose qui empêche les États de le faire, c'est des constitutions, des lois, etc. Et encore, quand on regarde, par exemple, j'ai des exemples en France, les services secrets, dès qu'ils peuvent hacker le système, ils le font, il n'y a pas de problème. Il y a une loi qui a été reconnue, qui a été votée en 92-93, c'était autorisé les services secrets à surveiller n'importe quel dispositif radio. C'est-à-dire, c'est en 93, depuis il y a eu les téléphones, le Wi-Fi et tout ce que tu veux. Et il y a une association française de défense des libertés numériques qui a attaqué ça à la fin des années 2010 et qui a eu gain de cause. Ça veut dire pendant 25 ans, il y a une loi. D'ailleurs, toute la loi était déclarée anticonstitutionnelle. Pendant 25 ans, il y a une loi anticonstitutionnelle qui donnait des pouvoirs ultra importants aux services secrets. Donc, je pense justement, ça va être une des thèses majeures de mon livre, c'est que on va vers des États qui sont de plus en plus contrôlants grâce aux technologies numériques et de plus en plus intrusives dans la vie des gens. Et c'est en partie en réaction à ces disruptions décentralisées qui menacent quand même, il faut le dire, énormément de piliers de, ce qui, de leur existence. Je pense qu'on va arriver à une sorte de bataille qui était dans l'histoire assez proche de ce qui s'est passé quand l'imprimerie a permis au protestantisme d'émerger de disrupter l'Église catholique. En fait.
Ouais.
Je pense d'ailleurs qu'à terme, ils vont perdre, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre sans se laisser faire. D'ailleurs, tu vois, je parlais de Louis XIV tout à l'heure et de l'absolutisme. Quand il était jeune, il y a la Fronde qui était une sorte de mini-guerre civile, de justement les nobles qui se sont révoltés parce que, en partie, en réaction à leur perte de pouvoir par rapport à la période féodale. Et au final, ils ont perdu. Mais c'est un des principes sur lesquels je m'appuie, c'est que quand un pouvoir est discuté, il ne se rend jamais sans se battre. Jamais, ça n'existe pas. Donc il faut s'attendre à des batailles. Alors, dans l'histoire, il y a eu beaucoup de guerres dans ces périodes-là. J'espère que ça ne va pas se produire là. Mais il faut s'attendre à des vraies batailles. Ça ne va pas rigoler. Donc pour l'IA, ça va être un grand sujet de est-ce que ça va davantage favoriser les gouvernements ou les phénomènes décentralisés. Là, à l'heure actuelle, ça favorise plutôt les entités centralisées parce qu'il faut énormément de GPU et les faire tourner pendant longtemps. Donc, il faut beaucoup d'investissements pour pouvoir créer les modèles et après même pour pouvoir les exploiter. Ce qui est par contre intéressant, c'est qu'une fois qu'ils ont été entraînés, les modèles, ça se répand facilement. Ça, c'est intéressant. Tu vois, Meta a... D'ailleurs, Meta, c'est assez intéressant, mais c'est des champions de l'IA open source. Ils ont sorti plusieurs modèles open source qui sont extrêmement beaux et qu'on peut faire tourner en local sur son ordinateur. Mais au début de l'année 2023, ils avaient sorti un modèle d'IA en disant « Attention, par contre, c'est que pour les chercheurs. On vous demande de remplir un formulaire, il faut montrer patte blanche, vous n'avez pas le droit de le remplir, tout ça. » 24 heures après, il était sur BitTorrent. Hein. Donc, je veux dire, voilà. Et ça, je pense qu'il y a un moment, et peut-être que OpenAI va se faire hacker et que ChatGPT, le modèle, va sortir. Et une fois qu'il est sur BitTorrent, c'est fini. C'est impossible à contrôler. Donc, la vraie question, ça va être... Et puis, au-delà de ça, il y a les modèles open source comme ceux que Meta fait, qui sont vraiment pas mauvais. Il y a un chercheur de chez Google qui a même, il y a un de ses mémos qui a été leaké où il disait qu'il pensait que les grandes entreprises allaient se faire complètement disrupter par ces modèles open source parce qu'il y avait une bien meilleure évolution, enfin une bien meilleure innovation dans ce secteur parce que tout le monde réfléchit au même moment plutôt que ce soit juste des gens d'entreprise. Au final, je pense qu'il y aura les Windows et les Linux de l'IA dans les années à venir. Et la grande question de est-ce que ça va favoriser plutôt les gouvernements, les citoyens décentralisés, ça va être est-ce que les modèles open source vont être capables de rivaliser avec les modèles centralisés, ou en tout cas, est-ce qu'ils vont être suffisamment gros pour que ça compense, si tu veux, l'avantage. Le problème de ça, c'est que derrière, il faut aussi des GPU pour faire tourner les modèles. Et plus tu as de GPU et plus ton modèle, tu peux mettre un maximum de paramètres, avoir la meilleure version de ce modèle et d'avoir les réactions le plus rapide possible. Ouais. Oui, mais tu pourrais aussi envisager un phénomène où, tu vois, il y avait pendant des années, j'ai partagé les puissances de calcul de mon ordinateur avec un système qui s'appelait Folding Atom et qui en fait simulait des reprimandes de protéines. C'est un programme de Stanford pour avancer la connaissance médicale sur des maladies en diffusant de la puissance de calcul sur des centaines de milliers d'ordinateurs de participants. On pourrait très bien envisager des réseaux comme ça où les gens partagent leur puissance GPU pour alimenter des IA open source. Donc je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire. On est vraiment au début, au balbutiement. On est comme l'Apple II est sorti en 77. On peut voir que c'est une révolution, on ne sait pas trop vers où ça va aller. Mais ça va être deux grandes tendances à surveiller. Là, il parle de plus en plus d'essayer de peut-être réguler, voire d'interdire les modèles open source. Donc, bon courage pour ça. Ça va probablement freiner l'innovation s'ils font ça, mais pas l'arrêter. Parce que c'est, d'ailleurs, aux États-Unis, le code source des logiciels est protégé comme la liberté d'expression. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu t'exprimes en code que c'est pas une expression, tu vois. Au début des années 90, ils avaient essayé d'interdire l'export de PGP, qui était le tout premier logiciel de chiffrement. Tu vois à quel point ça disrupte, hein, quand je te disais que ça inverse le rapport de force, parce qu'ils considèrent que c'était une arme de guerre. Ils le mettaient dans la même catégorie. Donc, qu'est-ce qu'a fait Phil Zimmermann, si je me rappelle bien, c'est comme ça que je prononce son nom, contourner le problème. Il a imprimé le code source dans un livre, protégé par le premier amendement, et il l'a exporté comme ça. Il ne pouvait rien faire, ouais, tu vois. Et ils se sont rendus compte que c'était stupide. Donc, on verra, mais à mon avis, le code, ça n'a pas... Ils ne vont pas pouvoir empêcher les développeurs de créer du code. Ils vont peut-être pouvoir les empêcher de l'utiliser, mais pas de le développer. Tu vois, parce qu'au bout d'un moment, ils peuvent tout le monde imprimer et puis sortir le truc, quoi. Donc, on verra. Ça va être une des grandes batailles, des grandes interrogations, effectivement. Mais je pense même... je n'ai pas encore terminé mon livre, donc je ne suis pas encore complètement arrêté dans mes conclusions. Donc, en fait, ça va être nécessaire pour les citoyens éclairés de mettre en place des processus décentralisés internationaux pour compenser le pouvoir de plus en plus grand que les États et le contrôle de plus en plus grand que les États vont avoir grâce aux technologies numériques. Tu vois, finalement, la dystopie, déjà, c'est la Chine. La Chine, c'est littéralement un épisode de Black Mirror. Quoi. Aujourd'hui, ils surveillent tout, ils ont la reconnaissance faciale partout. Il y a un credit score qui t'est donné, donc si tu commences à trop déconner, tu peux plus prendre le train, tu peux plus acheter ce que tu veux. Enfin, c'est une horreur. Ils ont une CBDC, donc une monnaie numérique de banque centrale qui est sortie, qui est programmable. Tu peux dire aux gens, t'as un quota pour acheter tel type de produit. Enfin voilà, il y a beaucoup d'États démocratiques et occidentaux qui sont super tentés par ça, faut le dire.
Ça a déjà commencé. Il y a déjà la monnaie européenne centralisée qui est déjà en train de.
Alors, je vais en parler, mais oui, voilà, dans mon livre, c'est une grosse inquiétude, ça.
Qui est d'ailleurs financée par. Enfin, qui est développée, je crois, par Amazon, d'ailleurs. Il me semble, je crois que c'est Amazon, c'est les serveurs d'Amazon qui vont être utilisés justement pour ça. Ouais. Ce qui est un peu incroyable, quand même, pour une monnaie européenne.
Ouais, ça, je sais pas, mais bon, en tout cas, je pense que ça va vraiment être les deux grandes tendances. De plus en plus de contrôle et un État de plus en plus pesant versus une liberté, mais à condition de se sortir de son pays natal, ça c'est super important, et de mettre en place une certaine stratégie internationale. Et attention, quand je dis ça, on peut se dire, mais il n'y a que les gens riches qui vont pouvoir faire ça. Au contraire, j'arrive dans mon livre que aujourd'hui, grâce au télétravail, même les classes moyennes peuvent y accéder. Pas tout le monde, alors bien sûr, il y a des gens qui sont liés à leur envoi physique, mais ces gens-là vont être vraiment embêtés. Donc, on va voir comment ça va se jouer, mais ça va être une des grandes batailles du XXIe siècle.
Ouais. C'est intéressant parce que tout est lié à la connaissance et au fait d'être capable d'apprendre à apprendre. Si tu es capable d'apprendre à apprendre, tu es capable d'utiliser une technologie, tu prends ne serait-ce que la crypto-monnaie. On a déjà parlé de crypto dans ce podcast d'ailleurs précédemment parce que ça intéresse aussi en termes d'entrepreneuriat. Tu es capable de créer un wallet numérique, tu es capable de créer un MetaMask pour acheter sur Poucoin, un truc comme ça, tu seras beaucoup mieux armé le jour où tu seras obligé, qu'il n'y aura plus de cash, qu'il n'y aura plus de carte de crédit, qu'il y aura juste un portefeuille numérique de monnaie centrale. Tu seras capable de passer à côté quand tu en auras besoin. Tu seras capable de rester libre, en fait, dans ce milieu-là.
Absolument, il faut... Ouais. Voilà. L'éducation, tout le monde s'habille, c'est aussi ça, c'est de rester un citoyen éclairé, de comprendre que... Il faut aussi comprendre que les constitutions des pays démocratiques ont été conçues à l'époque avant les ordinateurs et Internet, et qu'elles sont dépassées de pas mal de manières, et que les gouvernements sont extrêmement tentés de hacker le système en allant... En disant, bah oui, bah regardez, il n'y a rien qui prévoit l'interdiction d'une monnaie numérique, donc on va le faire, tu vois. C'est comme je te disais ce midi, ça paraît hallucinant aux gens, mais l'impôt sur le revenu, c'est une invention récente. En France, ça a été institué en 1914. D'ailleurs, c'est pas un hasard, cette date, c'est parce qu'il fallait financer l'effort de guerre. Et avant, il y a eu des décennies de débats, en gros de 1870 à 1914, et il y avait plein de députés de gauche qui étaient contre l'instauration de l'impôt sur le revenu, notamment parce qu'ils voulaient protéger les individus contre l'État, et ils pensaient que c'était pas normal que l'État sache combien tu gagnes. Mais ça paraît hallucinant aujourd'hui, tu vois, de dire ça. Tu vois qu'en fait, de plein de manières différentes, on a moins de liberté aujourd'hui que lors des débuts de la République, et aussi par rapport à une monarchie. Si tu vivais en 1750, tu avais peut-être moins de pouvoir politique, mais l'État ne savait pas combien tu gagnais. Bon, et il y avait des tas de manières aussi où l'État ne pouvait pas savoir et n'interférait pas trop dans ta vie, tu vois. Il faut faire attention à ça. C'est pas parce que c'est des droits qui sont garantis dans un texte que déjà ça va pas être discuté d'une certaine manière par les avancées technologiques, et que il faut pas aussi mettre en place un contre-pouvoir physique qui vont éviter d'avoir trop d'abus quand c'est devenu technologiquement possible. Tu vois, je te donnais l'exemple de cette loi qui a été déclarée anticonstitutionnelle. Bon, bah quelque part, donc voilà, on a une loi qui va directement à l'encontre du texte de la Constitution et qui a été active pendant plus de 25 ans. What the fuck? Et s'il n'y avait pas cette association qui s'était réveillée en disant, tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose, ben, savoir, ça aurait peut-être été 50 ans, 100 ans, tu vois. Mm. C'est une vision de tous les instants, en fait. Et tu regardes l'histoire, c'est pas quelques textes que les droits sont respectés, c'est que les gens se battent pour que ça soit respecté. Et je pense que ça va être au-delà, attends, comme c'est de plus en plus obsolète. Tu vois, par exemple, les Five Eyes, donc tu as les États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Australie et puis Nouvelle-Zélande. Ils n'ont pas le droit d'espionner leur propre population. Qu'est-ce qu'ils font? Ah bah, hack, on va hacker le système. Moi, j'étais aux États-Unis, je vais espionner ta population en Grande-Bretagne, je te file les infos, c'est pas grave, c'est pas toi qui espionner, c'est ok. Et en échange, tu fais la même chose pour moi, tu vois. C'est abusé. Mais techniquement, ils sont dans la légalité, tu vois. Donc, faut bien prendre en compte ça. Et je pense qu'en tant que citoyen éclairé, c'est important de mettre en place des comptes pour monsieur.
Yes. Écoute, merci pour cet échange et du coup on renvoie tout le monde vers ton livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de voir tes études et puis dans le prochain, tu finiras dans cette fois aussi.
J'espère qu'il sera publié, on va dire septembre 2024, c'est la date que je vise, mais derrière, il n'y a aucune garantie. Le titre provisoire, je ne sais pas encore si je vais l'adopter, ça sera tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays.
T'as un bon titre.
Ouais.
Va falloir bosser sur la préface.
Yes.
Merci et à bientôt.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité professionnelle, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.